Aïe, on me dit que c'est parti pour la première de Calibre 58 de la saison. Alors, j'ai été pris un peu au dépourvu, je sors mes petites feuilles et je suis à vous tout de suite. Ah, avouez que nous vous manquions. Depuis le début de l'été que nous vous avons abandonné, vous ne saviez plus trop que faire de vos mardis soirs. Eh bien, ça y est, on est là, on est de retour. Bon, on vous cache pas que sinon la vie est toujours aussi noire et que le bout du tunnel n'est non pas plus très loin, mais assurément très très loin. Alors, on est aussi un peu triste quand même. Avant l'été, Jean-Paul Belmondo était toujours vivant. Et lui, il incarnait mieux que quiconque la revanche des faibles sur les forts. On en reparle un peu dans l'émission avec Toups. N'oublions pas non plus Michael K. Williams, à jamais Omar dans Surécoute, l'une des plus belles séries policières. Allez, on arrête là car sinon l'émission va tourner aux commémorations funèbres. On n'est pas vraiment là pour agiter le borgnol. Alors, quoi de neuf dans cette émission ? Eh bien, on garde l'interview de l'auteur, on y ajoute une lecture d'un extrait de son roman par Linda. Et puis, comme l'éditeur est sympa, il propose de faire gagner à deux auditeurs un exemplaire du livre. Le livre du jour, c'est l'assassinat de Joseph Kessel. Et c'est non pas de Kessel, mais de Michael Hirsch. Et donc, c'est chez Serge Safran, éditeur. Le débat DVD perdure. Luc s'attaque aux toutes premières fois. C'est quoi donc, Luc, les toutes premières fois ?
Les toutes premières fois, c'est une chronique qui va essayer de se pencher sur la toute première fois qu'un auteur a écrit un roman noir. Mais vraiment, la toute première fois. Ça ne veut pas dire que c'est forcément excellent. Hein ? Mais voilà, on va essayer de se promener au cours de cette saison dans cette forme-là.
D'accord, et bien pour l'année prochaine, on a déjà notre thème, le second roman, parce que le second roman est encore plus difficile que le premier. Ajoutons donc à tout ce programme une chronique adaptée, c'est forcément trahir, et une devinette musicale avec Toups au saxo. En parlant de saxo, nous avons notre Chewbacca à nous en la personne de Jean-François Micard. C'est bien connu, la musique adoucit les meurtres, et c'est lui qui se colle à la programmation. Linda s'excuse de ne pas être là en vrai. Linda, tu nous manques. Toups est en retard. Je suis seul avec Luc. C'est Calibre 58, l'émission qui vous donne envie de vous plonger dans le noir. Et maintenant, générique, maestro.
Je vois, j'entends, j'étouffe, je respire, je tremble, je me lève, je bouge, je respire, je vais, je viens, sans but, je respire, je craque, je cours, je crève, je respire, je me tourne, encore, je tombe, je respire, je m'affole, je m'arrête, confuse, je respire, je m'écroule, je pleure, paumé, je respire, je me tais, je crie, aide-moi, je respire, je vois, j'entends, j'étouffe, je respire, je tremble, je me lève, je bouge, je respire, je vais, je viens, sans but, je respire, je craque, je cours, je respire, je me tourne, je tombe, je respire, je m'arrête, je respire, je respire.
Radio G, 101.5 FM.
Vous écoutiez un morceau de Rue Oberkampf, Agitation, un titre phare de ce trio de DJ franco-allemand basé à Munich, dont le premier album, Christophe Philippe, est sorti il y a quelques mois. Entre techno, new wave, froideur des 80s et frénésie urbaine ultra moderne. Nous allons maintenant passer à notre invité du jour. Et notre invité du jour, c'est Michael Hirsch, qui publie chez Serge Safran l'assassinat de Joseph Kessel. Alors, étrangement, ce roman est l'un des moins policiers de l'éditeur en cette période de rentrée littéraire. Mais son titre m'a attiré. Et oui, j'aime bien les auteurs du type de Joseph Kessel. Et puis, la période de l'entre-deux-guerres est l'une des plus intéressantes. Enfin, il y a cette intrigue sur fond d'anarchisme. Au fait, si vous avez du temps aussi, lisez également L'anarchiste qui s'appelait comme moi de Pablo Martín Sánchez chez Zulma. C'est l'histoire d'un primo romancier qui a un nom avec assez banal, Pablo Martín Sánchez, qui tape sur Google son nom et qui ne voit non pas des critiques de son premier ouvrage, mais l'apparition de l'existence d'un anarchiste qui s'appelle Pablo Martín Sánchez et donc qui va enquêter sur cet homme. Fin de la parenthèse et de l'adjonction. L'intrigue de ce petit roman de Michael Hirsch est assez simple. Dans les rues de Paris, un homme en suit un autre, car il veut le tuer. Les deux hommes se retrouvent attablés. On suit les pensées criminelles de l'un, tandis que les élucubrations expansives de l'autre servent de contrepoint dramatique. Dans le même temps, l'auteur déroule un pan historique avec une plume classique. Il se permet bien quelques ficelles intéressantes en prenant du recul sur l'époque. Et puis, dans une dernière partie, on reprend pied dans le présent, mais à regret, car on était bien dans ces années folles. Je résume, il y a du romantisme, de l'épique, des héros tragiques déçus et déchus. C'est écrit sobrement. On pense à Macorlan, à Corto Maltese et à Nestor Makhno. Lui, c'est le personnage slave qui a vraiment existé et qui arpente les pages de ce roman avec nihilisme. Si avec tout ça, je ne vous ai pas donné envie de lire L'assassinat de Joseph Kessel de Michael Hirsch, paru, je le répète, aux éditions Serge Safran, je ne sais plus quoi faire. Un peu plus tard, dans cette émission, nous vous proposerons de jouer pour gagner un des deux exemplaires du livre. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tous les détails sur le site de Radio G, dans notre rubrique Calibre 58, ou alors sur notre page Facebook Calibre 58. Je laisse maintenant la parole à Linda pour sa lecture d'un extrait. Nous écouterons à la suite l'interview de Michael Hirsch.
Makhno n'avait pas tout compris,
Mais il avait lui aussi combattu les troupes de Petliura, celle-là même qui avait semé la terreur sur leur passage à travers toute l'Ukraine. Il se sentait donc proche de Schwarzbach, cet anarchiste exilé pour qui l'assassinat avait été la seule échappatoire au malheur et à l'oubli. Macnaud, lui, n'avait jamais tué que, dans le feu de l'action, sabre au clair debout sous la mitraille de l'ennemi. Même lorsqu'il avait fait exécuter le procureur scélérat qu'il avait envoyé croupir en prison, il avait agi sans haine, uniquement par souci de justice. Et il avait d'ailleurs pensé qu'un procureur comprendrait cela mieux que les autres, qu'il accepterait son sort comme un honnête retour de bâton. Il était maintenant face à sa future victime. Cherchant la force qui lui faisait pourtant défaut, il eût préféré un duel, une rixe, dont il serait sorti vainqueur, comme on invoquait au Moyen-Âge le jugement de Dieu. De l'action, il se serait rendu maître, mais l'attente se prolongeant, il buvait pour se donner du courage ou pour embellir une besogne qui, tout en lui paraissant nécessaire et discutable, n'en restait pas moins dégueulasse. Il aurait voulu s'expliquer, que l'accusé sache enfin pourquoi il était justement condamné, car l'expression de la sentence lui aurait permis de justifier son geste, mais les mots, encore eux, lui manquaient cruellement. Même en russe, il n'aurait su que bredouiller une argumentation bancale. Dans cette taverne des faux-semblants, où la Russie perdue rejouait son passé, où les femmes du monde étaient devenues des putains, où les seigneurs de la steppe vendaient à la sauvette des cigarettes, à l'unité. Son honneur bafoué lui paraissait soudain dérisoire. Eux aussi s'étaient fait dépouiller de leurs atours, de leurs légendes. Et ils ne songeaient pourtant pas à tuer qui que ce soit. Ou bien était-ce le cran dont il avait toujours fait preuve qui lui manquait à présent? Son courage légendaire s'était débiné, comme tout le reste. En cela, sa déchéance était complète. Ils étaient tous pareils en définitive. Des ombres laissées derrière lui par un monde disparu, de simples taches sur une nappe en papier. Petit à petit, il devenait sentimental. On ne devrait jamais boire avec les gens qu'on va tuer.
Michael Hirsch, bonjour. Qui est ce personnage, Macnaud ?
Bonjour. Eh bien, Nestor Macnaud, c'est un anarchiste ukrainien ayant vécu au début du XXe siècle et qui est à l'origine de la seule expérience connue d'anarchisme à l'échelle d'une nation, puisque pendant 18 mois, même si ça a été relativement court, la moitié de l'Ukraine a été entièrement autogérée. Voilà. Et c'est notamment grâce à Macnaud que ça a été rendu possible.
En quoi, sous votre plume, il est dostoïevskien, ce Macnaud ?
Ce Nestor Macnaud, c'est un peu une sorte de croisement hybride entre le Bonaparte de la campagne d'Égypte et puis Laurent Darabi, qui met en œuvre tout un tas de techniques de guérilla qu'on va retrouver ensuite pendant la Première Guerre mondiale et puis dans la péninsule arabique. C'est-à-dire qu'il frappe l'armée rouge et l'armée nationaliste ukrainienne par petits groupes très mobiles avec des cavaliers qui se déplacent dans la steppe, qu'on n'arrive pas à identifier, qu'on n'arrive pas à rattraper. Mais il est dostoïevskien parce que il est frappé par une espèce de à la fois d'omerta et de destinée maudite, si on veut. Il ressemble en cela à Raskolnikov, il est à la fois une espèce de fou criminel, en tout cas c'est comme ça qu'on le décrit, et puis c'est le héros de la libération du peuple. Il est constamment rattrapé, peut-être par la culpabilité.
Ça représente quoi pour vous l'âme slave ?
Alors je ne sais pas si vous connaissez Il y a une chanson de Boris Vian qui s'appelle L'âme slave, qui me fait beaucoup rire et qui est une espèce de caricature, de parodie. J'avais ça pas mal en tête qu'en écrivant le livre, en fait. J'ai même pensé à un moment, on peut dire un extrait pour mettre en épigraphe du bouquin, mais en fait, le texte en entier se prête pas tellement au découpage ou à l'extrait. Donc, qu'est-ce que c'est l'âme slave? Est-ce que ça existe véritablement? Est-ce que c'est la mélancolie? Est-ce que c'est un cliché projeté par les Occidentaux sur les Russes? C'est difficile à savoir, en fait.
Qu'est-ce que l'anarchisme selon Macno et en quoi Kessel peut pas comprendre ça?
L'anarchisme, si vous voulez, ça a été un mouvement politique. Ça n'a pas été qu'une utopie, ça a été un mouvement politique, notamment en France, qui a été peut-être le mouvement politique le plus important de la deuxième moitié du 19e siècle. On l'a complètement oublié parce qu'à partir de 1917, l'anarchisme tombe quasiment dans l'oubli. Assez paradoxalement, ce n'est pas tellement le capitalisme qui a détruit l'anarchisme, en tant qu'idéologie, si vous voulez, mais c'est bien le communisme. Quand la Russie devient soviétique, pour l'Occident, pour beaucoup de gens de gauche en Europe de l'Ouest, l'Union soviétique devient une espèce de paradis sur Terre. Bien évidemment, ce n'était pas du tout la réalité, mais c'était comme ça que beaucoup d'intellectuels, notamment en France, l'apercevaient. Et à partir du moment où ce paradis sur Terre était réalisé, le paradis du socialisme, on avait plus besoin de recourir à une autre idéologie telle que l'anarchisme. Donc, totalement tombé en désuétude. Voilà, l'anarchisme pour Macno, c'est surtout, avant tout, le refus total de toute forme d'injustice. Voilà. Il a grandi absolument misérable, analphabète, dans une campagne très rurale du sud de l'Ukraine, où les gens étaient traités comme des serfs, véritablement comme au Moyen-Âge. Les gens ne possédaient pas la terre sur laquelle ils travaillaient, c'était les ouvriers agricoles qui étaient traités quasiment comme des esclaves. Et cette injustice fondamentale dans laquelle il a grandi, la misère, puisque c'était vraiment une question de survie, les gens n'avaient pas à manger, l'anarchisme pour lui a été une découverte idéologique qui lui a permis de transformer ce sentiment de révolte face à l'injustice en théorie politique. Voilà. Et pourquoi Kessel ne le comprend pas? Kessel, c'est quand même plutôt un type de droite. Il était journaliste au Figaro, à l'époque que je l'écris dans le livre. Pour lui, c'est un conservateur. Le communisme, évidemment, c'est une hérésie abominable qu'il faut combattre. Et c'est pas tellement, finalement, l'anarchisme chez Macno qui ne supporte pas. C'est l'apparatus, si vous voulez, le décorum antisémite qui a été plaqué sur la figure de Macno, notamment par des agents du NKVD, c'est-à-dire le futur KGB, pour essayer de nuire à sa mémoire, à sa légende et le discréditer, notamment en Occident. Et Kessel va tomber sur des pamphlets qui ont été écrits par des agents soviétiques, dans lesquels Macno est décrit comme une espèce de monstre antisémite absolu, un tueur affamé de sang, une espèce de bête ignoble qu'il faut détruire, et ne sachant pas qu'il tombe sur des pamphlets de propagande, il va se servir de cette littérature-là pour écrire un roman, un court roman, une grosse nouvelle, si on veut, une novella, disent les anglo-saxons, qui s'appelle donc Macno et sa juive. Il va écrire ce livre, non pas pour parler véritablement de Macno, dont il ne connaît absolument rien, il n'a même pas rencontré des gens qu'il avait rencontrés, il n'a pas connu le témoignage même de ce groupe-là, mais il va plaquer tout un imaginaire, si vous voulez, à la fois ça va lui servir à dénoncer l'antisémitisme ukrainien, les pogroms qui ont été commis au début du XXe siècle, et puis aussi ça va devenir pour lui une espèce de figure absolue de la violence, violence qu'il dénonce d'une main, mais il glorifie aussi de l'autre, en fait, parce que Kessel, c'était un type qui s'est engagé très tôt dans l'armée pour participer à la Première Guerre mondiale. Il avait que 18 ans quand il est devenu mitrailleur sur un biplan de l'armée de l'air. Et l'ambiance de la guerre, si vous voulez, c'est quelque chose qui l'a profondément marqué. La camaraderie, mais aussi l'affranchissement de toutes les normes, l'affranchissement face aux normes sociales, aux lois de la République, à la morale. Toutes ces choses que la guerre rend possible, et qui, évidemment, en tant que tel, sont condamnés, et quelque chose qui le fascine depuis cette époque-là. Ça le fascine tellement que pendant à la fin de la guerre, quand les conflits vont prendre fin en Europe de l'Ouest, lui, il va se réengager dans l'armée, partir, mener une espèce d'expédition totalement rocambolesque, en Extrême-Orient, pour essayer de prendre les Soviétiques à rebours. Je ne rentre pas dans la détail de ça, mais lui, pour lui, la guerre s'est pas terminée en 1918, en ce moment, mais en 1920. Et quand il va découvrir cette figure de Macno, ça va être pour lui un moyen d'exprimer de manière littéraire cette espèce de fascination pour la guerre, pour la violence qu'il a ressentie quand il était plus jeune et dont il n'arrive pas véritablement à se défaire. Voilà, donc je ne sais pas s'il condamne véritablement l'anarchisme en tant que tel, je pense que c'est quelque chose qu'il ne comprend pas tellement, mais la figure de Macno va devenir pour lui essentielle. Voilà.
Oui, alors vous avez écrit donc ce roman, L'assassinat de Joseph Kessel, et on a l'impression en le lisant que c'est une écriture un peu old school, le roman d'aventure des années 20-40. Moi, je vous le cache pas que c'est la littérature qui me plaît. Où est-ce que vous vous situez, vous, entre Joseph Kessel et Pierre McCorland, par exemple, si vous l'avez lu?
Oui, tout à fait. Alors, je préfère d'ailleurs McCorlan à Kessel. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je ne connaissais pas grand-chose de Kessel. J'avais lu 2-3 livres de lui. J'ai dû en lire beaucoup plus, évidemment, pour faire ce livre-là en guise de documentation. Je me sens plus proche de McCorlan. McCorlan, c'est un auteur qui a compté un peu dans ma vie d'écrivain. J'ai lu quasi pas tous ses livres, mais beaucoup. Et puis, il a inspiré aussi une espèce de mouvement qu'on retrouve aussi dans le cinéma, des films comme La Bandera ou Pepe le Moko. Tout ça, ce sont des films qui aujourd'hui sont un peu blacklistés parce que ça incarne un imaginaire colonial, machiste, sexiste, un peu tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu, qui m'a accompagné pendant toute une partie de ma vie, qui a un peu forgé finalement l'écrivain que je suis devenu.
Et maintenant, on écoute quoi comme musique?
Eh bien, j'aimerais bien qu'on écoute une mélodie populaire, une valse russe qui s'intitule « Sur les collines de Mandchourie » et qui est un peu devenue avec le temps l'hymne de ralliement des Slaves de manière générale et des Russes en particulier de la diaspora internationale. Et puis, c'est une mélodie qu'on entend, entre guillemets, dans le livre à peu près à moitié.
Eh bien, Michael Hirsch, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre roman, L'assassinat de Joseph Kessel. C'est paru chez Serge Safran. Et nous avons, je le signale à nos auditeurs, 2 exemplaires à faire gagner. Voilà, bon, merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Извините, сейчас. Извините, одну минуту. Минуту! Одну минуту. Ребят, вальс. Ну, вальс, знаете, О, на всех, здесь на всех. Вальс.
Да.
Одну минуту.
Да-да-да-ри. Где?
Не знаю. Эх, мать честная. Ладно. Сейчас. Одну минуту.
Сейчас.
Во. Ноты. На сопках Маньчжурии. Вот.
Спите, мир, русский земли, очистить свое сердце.
Radio G, 101.5 FM.
Nous écoutions sur les collines de Mandchourie une version un peu particulière puisque tirée du film Urga de Nikita Mikhalkov, sorti en 1991. Il y est question de steppes mongoles, d'alcool et de lois chinoises sur l'enfant unique. Notre invité du jour était Michael Hirsch pour l'assassinat de Joseph Kessel. Je vous rappelle que 2 exemplaires du roman sont à gagner. Plus d'informations sur le site de Radio G et sur notre page Facebook. Pour l'heure, c'est maintenant la toute première fois de Luc.
Merci Julien. Et dans une chronique intitulée « La toute première fois », l'inquiétude est que peut-être à la toute première fois que l'on veut évoquer, il y en a une autre, plus première fois encore. Donc pour cette inauguration, je n'ai pas voulu prendre trop de risques et j'ai choisi le premier roman noir de Léo Mallet, Johnny Metal. Je sais, il y a certainement quelqu'un devant son poste, un ratiocineur incollable, tout vieux et tout couvert de poussière qui va hurler. J'entends déjà son cri comme quoi Johnny Metal n'est pas le premier roman noir de Léo Mallet. Je lui opposerai un ferme « oui, mais ». Wikipédia. Et ça cloue le bec à n'importe qui. Tout spécialiste, que dis-je, tout exégète qu'il pourrait être de l'œuvre de Léo Mallet. Or donc, notre ami Léo Mallet, je dis notre ami parce qu'il est tout particulièrement sensible au mauvais genre et que dans cette émission, nous, on kiffe le mauvais genre, a commis Johnny Metal et ce en 1941. Donc, il a sans doute eu honte puisqu'il a écrit sous le pseudonyme de Frank Harding. Ce qui n'est pas vrai, c'était la contrainte prendre un nom à consonance américaine. Ah, Johnny Metal, ça sent bien son nom de risque-tout dégoté par un Français en mal de culture américaine. L'histoire commence étonnamment. Le dénommé Johnny Metal, journaliste de son état, est confortablement installé chez lui par une nuit pour le moins orageuse quand soudain, on frappe à sa porte. Il ouvre. Une jeune femme se tient devant lui. Il la fait entrer, mais elle s'effondre. Il découvre qu'elle a reçu une balle dans la poitrine. Il l'installe dans sa chambre et va pour appeler les secours, mais à nouveau, on frappe à la porte. Il ouvre et voit son salon envahi par 3 gangsters qui lui demandent si une femme est entrée chez lui. Et voyez comme le hasard peut être surprenant. Parmi les 3 gangsters, Johnny Metal reconnaît leur chef, Teddy Brown, magouilleur de première, qu'il avait rencontré à Memphis, Tennessee. Il faut toujours dire Memphis, Tennessee, lorsque celui-ci avait monté un syndicat bidon, fomenté une grève et monnayé la reprise du travail avec les patrons, puis disparu avec l'argent. Le dit Teddy Brown a fait aussi partie de la bande à Chicago Kid, dit Kid Chi, gangster aussi de son état, enfermé à Alcatraz pour 10 ans, sans doute suite à la trahison de Teddy Brown. La femme va mourir en murmurant les mots « Calpin, Alcatraz !» Et à partir de ses prémices, avec cette nouvelle saison, je fais œuvre de vocabulaire, vous le voyez, va se dérouler une histoire rocambolo-abracadabrantesque, pour le moins capitalo-tracté. Un journaliste concurrent, Walter, va distiller des informations volontairement erronées. Palace, le voisin de Johnny Metal, va se révéler être le colonel Sorello, un compagnon de lutte du révolutionnaire Zarapa. Ça vous dit rien ça, ce nom-là? En fuite. Il s'agit d'un pastiche des romans noirs américains et Léo Mallet en a repris les codes. Pour faire plus vrai, il utilise des mots américains, hot news, ou utilise des patronymes qui font couleur locale, l'inspecteur McNib, par exemple. Dans ce roman, le nombre de personnages est impressionnant. Ils entrent en scène au fur et à mesure du déroulement de l'histoire, mais Léo Mallet jongle parfaitement avec eux. En tant que membre du mouvement surréaliste, j'ai la ferme conviction qu'il a utilisé la technique du cadavre exquis pour bâtir son scénario, mais ça fonctionne. Tout s'explique quand on sait que Johnny Metal est un roman de commande expédié en 2 mois. Si c'est une mécanique à peine plus grossière que les romans d'un Musso ou d'un Tillier, il n'en a pas, comme eux peuvent le revendiquer, de prétention littéraire. Ça n'a pas empêché ce roman d'avoir eu un succès, un vrai succès. Comme je l'ai dit, Léo Mallet a été proche du surréalisme qu'il a rejoint en 1931 aux côtés de André Breton, Éluard, Aragon, Giacometti, René Char, c'est vous dire. Crieur de journaux entre 1933 et 1939, il a commencé par publier des recueils de poésie. Son entrée en littérature professionnelle a démarré avec Johnny Metal. Il est recruté par Louis Chavance, pour le compte de l'éditeur Ventillard, pour une collection de romans policiers d'un genre nouveau intitulé « Minuit », rien à voir avec les éditions du même nom, créées pourtant la même année, qui avait pour but de contourner l'interdiction de la littérature anglo-saxonne en offrant au public des romans made in France, mais avec une intrigue, des personnages et des décors américains. Léo Mallet en a respecté tous les codes et toutes les contraintes. Si Johnny Metal a connu le succès, il n'en a pas été de même pour les opus suivants, ils étaient jugés trop littéraires, excusez du peu. Léo Mallet a été pour le moins prolifique, et s'il a souvent signé de son nom Léo Mallet, il a eu recours à pas moins de 6 pseudonymes. C'est avec la création de son personnage emblématique Nestor Burma, en 1943, dans le premier épisode de ses aventures, 120 rue de la Gare, qu'il va se reconnaître réellement comme auteur. Évoquer Léo Mallet, c'est nécessairement parler de Tardy, parler de... Enfin, ceci est une autre histoire.
Merci Luc. Moi aussi, je suis un inconditionnel de Léo Mallet. J'avoue que je préfère sa trilogie noire, que je trouve supérieure à sa série autour de Nestor Burma. Je rappelle à nos auditeurs l'apparition de la correspondance entre Léo Mallet et François Guérif, mon vieux Guérif, aux éditions La Grange Batelière. Mais c'est maintenant l'heure de tenter de gagner l'un de ces fameux 2 exemplaires du roman de Michael Hirsch, L'assassinat de Joseph Kessel chez Serge Safran. Écoutez bien ce qui va suivre.
Nous sommes en 1981. Le commandant Jocelyn Beaumont est le perdreau des 2 années qui viennent de passer très longuement pour lui dans un camp de travaux forcés au Malagaoui. Alors, ne cherchez pas sur une carte. Le Malagaoui n'existe pas. C'est l'AEF et l'AOF confondus, mais d'après. Un pays indépendant sous la coupe d'un dictateur, mais aussi de la France. Donc, Jocelyn Beaumont la mauvaise, car 2 ans auparavant, il devait tuer le dictateur pour servir au mieux les intérêts de la France. Puis les intérêts ont changé, et Beaumont a été dénoncé. Il n'aime pas ça, Beaumont, être le perdreau des 2 dernières années. Alors, il s'est évadé, et comme il aime foutre la merde, il a décidé d'accomplir coûte que coûte sa mission. Et ça tombe plutôt bien, car sa cible sera bientôt en voyage diplomatique en France. Dans 2 autres vies, Beaumont a été Stanislas Borowitz et Alexandre Dupré. En vrai, il s'appelle Jean-Paul Belmondo. Il a été, à ces occasions-là, dirigé par un certain Georges Lautner. Il a une certaine idée de la vie. C'est un panaché de panache. Un héros romantique dans un monde qui ne l'est plus depuis très longtemps. C'est un artiste entouré d'artistes. Il est presque cinquantenaire. Et ses rides sont soucieuses. Heureusement, il peut compter sur un compositeur italien pour l'épauler, épouser sa cause. Ce compositeur, c'est Ennio Morricone. Le film, c'est bien entendu Le Professionnel. Quant au titre du morceau joué par Toups que vous écoutez, c'est à vous de nous le dire. We'll be right back.
J'espère que vous avez trouvé, hein. N'oubliez pas que vous pouvez gagner un exemplaire du roman de Michael Hirsch paru chez Serge Safran, L'assassinat de Joseph Kessel. Et maintenant, pour cette première chronique d'Adapter, c'est forcément trahir, j'ai choisi de parler de Sur les quais. Alors, comme on va parler tout au long de l'année d'adaptation de romans en bande dessinée, le choix peut paraître curieux. Et oui, Sur les quais est tout d'abord un film d'Elia Kazan qui a été novélisé et enrichi par Bud Schoenberg avant d'être adapté dans la collection Rivage Casterman Noir par George von Lindhout et Rodolphe en 2008. Autant dire que les écueils étaient nombreux. Tout d'abord, il fallait s'émanciper de l'image cinématographique, ce qui est fait. Exit Marlon Brando, Karl Malden, Eva Marie Saint, Rod Steiger et autres Lee Jacob. Autant de gueules du cinéma. Les auteurs font le choix, cependant, d'un noir et blanc grisâtre qui sied bien au quai de New York. Car l'action se situe à New York. Le pitch, il est assez simple. Sur les quais, la pègre a fait mainmise sur les syndicats et gère l'embauche des dockers de manière assez violente. Au début de l'histoire, un homme monte sur un toit pour s'écraser. Sa sœur va vouloir connaître la vérité. Elle va alors croiser un prêtre et un boxeur déchu. Foutre un sacré merdier qui va amener son lot de citations à comparaître. Plus tard, Martin Scorsese adaptera The Irishman, histoire similaire mais dans le transport routier. Pour cette adaptation en bande dessinée, il a cependant fallu faire des choix drastiques puisqu'elle fait seulement 80 pages. Autant dire que tous les éléments descriptifs du roman sont absents, qu'un pan de personnalité trouble des protagonistes ont disparu. Le prêtre, qui emprunte toujours un clope, a lui aussi disparu. Et surtout, tout l'aspect manipulation ecclésiastique politique. L'Église se limite au père Barry. Son combat est minimaliste. Il fera bien le coup de poing avec Terry Malloy, mais sa personnalité s'en ressent. Quant à Edie Doyle, la sœur meurtrie, elle n'a pas forcément le charisme d'une Eva Marie Saint. Vous savez, la fille dans La mort aux trousses. Mais alors, me direz-vous, qu'est-ce qui marche ? Eh bien, tout d'abord l'environnement, les quais, c'est magistral. Après, il y a une page qui relate un combat de coq pour l'obtention de jetons. Et puis, il y a ces histoires dans l'histoire. Celle de Terry Malloy, moins benée que dans le roman, celle d'Eddie Doyle, moins naïve que dans le roman, et celle de Johnny Friendly, plus minimaliste que dans le roman, mais dépeint comme la bête qu'il est, prêt à sacrifier mère et amis pour garder la main sur un empire qu'il a phagocyté de toutes parts. Bon, avouons-le, il manque quand même Marlon Brando, car l'acteur est irremplaçable. Mais comme adaptation, le travail de George von Lindhout et Rodolphe ne nous laisse pas sur les quais. C'est l'heure de notre débat DVD. Aujourd'hui, on parle de The King of New York d'Abel Ferrara avec Christopher Walken qui ressort en format très collector chez Carlotta en Blu-ray. On écoute un extrait, puis Luc nous fait le pitch. Linda viendra faire une toute petite apparition pendant le débat.
Thank you.
match de ce King of New York, Frank White, puissant Christopher Walken, gangster, sort de prison. Il revient à New York et décide de reconquérir son territoire dans le Bronx. Il s'installe au Plaza, rien que ça, d'où il y dirige ses affaires avec l'aide de son lieutenant Jimmy Jump, Lawrence Fishburne, juste parfait. Cerise sur le gâteau, ce qui lui est reproché par ses adversaires, c'est de travailler avec des noirs, je dis bien des noirs, des nègres. Reconquérir son territoire, c'est éliminer tous ses adversaires, à commencer par la filière colombienne. Et l'élimination est pour le moins radicale, l'extrait qu'on vient d'entendre l'illustre parfaitement. Ce qui l'anime, ce fameux Frank White, c'est de reconstruire un hôpital à Harlem. Et c'est sans doute la faiblesse du film, d'aucuns pourraient parler même de supercherie. Mais voilà, Roy Bishop, Victor Argo, un lieutenant de police, a des comptes à régler avec, et avec toute son équipe. Il cherche un moyen de le coincer. Sans rien divulgacher, ça finira mal, très mal. Le film est d'Abel Ferrara, Bad Lieutenant, autant dire que ce n'est pas le glamour qui l'intéresse. Il filme le New York des années 90, pas le New York d'aujourd'hui. Non, non, un New York partant à volo, dominé par la pègre et la corruption. D'ailleurs, la scène où le gratin new-yorkais est réuni dans un cabaret pour célébrer la construction de ce nouvel hôpital dont tout le monde sait que l'argent vient du trafic de drogue est terrifiante. Et ce sera tout pour cette présentation.
Toups, t'en as pensé quoi de ce film ?
J'ai trouvé que c'était très très long, j'ai trouvé que c'était très très complaisant, j'ai trouvé que c'était très très voyeur, j'ai trouvé que c'était très daté. J'ai adoré par contre Christopher Walker et Lawrence Fishburne, et Wesley Snipes m'a laissé un peu sur ma faim. Je me suis dit bon bah ok, il avait peut-être pas encore fait ses preuves à cette époque là il avait peut-être pas encore été entre guillemets révélé, mais c'est comme ça qu'on dit, par les films de Spike Lee. Je pense que ça se joue à très très peu d'années près, avant qu'il commence à prendre tout l'espace qu'il a pu avoir après. J'étais assez déçu par la minceur du pitch, en fait. Au bout d'une heure et demie, tu te dis... C'est donc tout ce qu'il a à dire. J'ai trouvé que ça manquait de profondeur et que c'était pas vraiment étayé en fait ce qu'il disait. Après, plastiquement, ça correspond à cette époque-là. Hein. J'avais l'impression que c'était plus fin des années 80 que des années 90.
90.
Et oui. Il y avait un film...
Début des années 90, c'est un peu la fin des années 80, il faut bien le reconnaître.
Ouais. Hein, je te remercie.
Ce sera porté à ton crédit.
Je te remercie infiniment.
C'est assez perméable, en fait. Hein. Oui, alors moi, je voulais juste rebondir sur un truc.
Oui.
Oui, le pitch est assez minimaliste, mais dans les films où l'esthétique est omniprésente, c'est souvent le cas. Je pense à Crash de Cronenberg, le pitch est minimaliste. Je pense à Drive, le pitch est minimalisme. Après, l'esthétique est superbe. Moi, je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Après, le film, il est tenu Christopher Walken, quoi. What else? Moi, je trouve qu'il manque un personnage féminin. L'avocate aurait pu être bon personnage féminin et elle est pas là pour faire écho. Je sais pas ce que t'en penses, Luc.
Bah, écoutez, moi, contrairement à vous, je vais vous dire la fin de mes réflexions, c'est le film n'a pas pris une ride. Voilà, ça c'est la fin de mes réflexions. Et je pense qu'en fait, la problématique de ce film, c'est qu'il parle de toute autre chose que ce qu'il nous montre. Il y a deux niveaux dans ce film. Il y a un Abel Ferrara qui nous raconte une ville, New York, et la ville dans l'état dans lequel était dans les années 90, c'est-à-dire terrifiante. Il nous parle de la corruption. Mais tout ça, effectivement, je suis d'accord avec toi, Toups, hein, tout ça, effectivement, d'un côté un peu glacé, un peu froid, mais je trouve que c'est ce qui en fait toutes les qualités. Bien évidemment, et je pense que Christopher Walken est tout à fait le modèle du film, c'est-à-dire glacé, imperméable, impénétrable, mais malsain au possible. Enfin, c'est un individu des plus malsains, comme d'ailleurs New York était malsaine à cette époque-là. Et je pense, moi, que moi j'ai pris un plaisir immense à voir ce film. Vraiment un plaisir immense. Je suis pas un inconditionnel d'Abel Ferrara, hein. Je suis vraiment loin de là, mais ça a été c'est une découverte. C'est la première fois que je le vois, moi.
Oui, alors moi aussi, hein, je l'aimais ce film. Je pense comme toi, La Rue, elle est très bien filmée. On peut penser aujourd'hui que c'est daté, mais en fait, c'est parce que notre vision, elle a changé du monde, et que La Rue, elle est beaucoup plus, encore plus violente et plus expressive qu'elle était avant. Si tu regardes des New York Police Judiciaire de la même, enfin, des années 97, 98, c'est exactement la même rue qu'il y a. Il y a le même constat. Après, ce qu'on peut dire, je pense, on va être unanime là-dessus. Le film d'Abel Ferrara, c'est pas un plaidoyer pour la réinsertion post-carcérale.
Non, pas. On peut pas dire ça. Honnêtement, on peut pas le dire. Non, vraiment. Mais par exemple, dans tous ces éléments-là, tout le discours sur le discours de Christopher Walken et la discussion qui à un moment donné entre Roy Bishop, donc le lieutenant de police, avec ses collègues. Les collègues en ont marre d'être dans une société impuissante. Et ils décident de transgresser. Cette séquence est fantastique. Enfin, quand ils décident de transgresser, qu'ils arrivent dans cette espèce de cul de basse fosse dans lequel la pègre se réunit et commence à mitrailler partout. Enfin, ça tire de partout, poursuite de voitures. Et je pense, moi, que là, on a une double lecture, c'est-à-dire, à un moment donné, Abel Ferrara nous montre des gens qui ont marre de politiques qui jouent, qui font pas leur boulot, en fait, tout bonnement, qui font pas leur boulot,
ben oui.
et qui décident de prendre, alors de transgresser, et ils vont transgresser, voilà, avec...
Mais ça, Luc, si je peux me permettre, ça existe depuis la fin des années 70, le justicier,
oui.
un justicier dans la ville, Charles Bronson, Dirty Harry, tout ce que tu veux.
On est à un niveau supérieur avec le film d'Abel Ferrara. Et simplement pour la phrase de Christopher Walken qui répond à Roy Bishop, I'm not the problem, I'm just a businessman. Rien que cette phrase, rien que cette séquence, elle est terrible. Enfin, moi, pour moi, c'est un film vraiment.
Je suis d'accord avec toi. Il y a des belles choses, surtout ce passage-là, en fait. Vers la fin du film, cette discussion entre le lieutenant de police et sa proie, et c'est le lieutenant qui est plus la proie que la proie à ce moment-là dans le film, et c'est assez troublant. Il dit des choses, et effectivement, c'est quand je disais le propos est mince, parce qu'effectivement, ça tient en quelques phrases. Ce personnage que tu trouves malsain, Luc, de Christopher Walken, qui me paraît peut-être un peu dérangé. D'ailleurs, il y a quelqu'un, un avocat, ou je ne sais plus qui lui dit, mais non, c'est un autre dealer qui lui dit, mais j'ai l'impression que tu es complètement cinglé, mon pauvre gars. Parce que ce gars-là, il a envie, il met une énergie de dingue et tous ses moyens, pognon, personnel, et pour reconstruire un hôpital à Harlem et trouver 16 millions de dollars pour reconstruire un hôpital. Pendant que, à côté de ça, les politiques, parce que quand même 16 millions de dollars, c'est pas
pour,
ça qui.
Pour New York, non.
Pour New York,
c'est,
voilà.
C'est peanuts.
C'est peanuts. Et lui, il veut faire ça. Il s'est trouvé sa mission, c'est voilà.
Alors, mais c'est là la super. Moi, je trouve que la supercherie de Ferrara, elle est là, hein, dans cet argument-là. Cet argument, on s'en fout.
C'est un MacGuffin.
Bah oui, oui.
C'est un MacGuffin. Ouais. Alors, avant de passer la parole de façon sibylline à Linda, moi, juste un truc. Ce film, il a aussi un avantage énorme. C'est, on voit Horatio Caine, des experts, David Caruso, qui se fait exploser la gueule. Et ça, franchement, quand on sait qu'après, pendant 15 ans, on va bouffer d'Horatio Caine debout sur sa colline, les bras croisés, les lunettes de soleil sur le bout du nez pour t'expliquer quelle était la raison de vivre dans la société, eh ben ça fait quand même du bien. Ça soulage. Voilà. Et pour le scénario... Le roi qui revient et qui rechute, moi, ça m'a fait penser aux 100 jours de Napoléon. Mais bon, bref, voilà.
On va écouter, Linda, on va écouter la vie de Linda quand même. Hein.
Mmh. Oui, c'est très éloquent. J'ai trouvé ça long. Et ça m'a pas raconté grand-chose. Je sens que je vais me mettre plein de monde à dos. Désolée. Ben oui. Alors oui, l'occasion de voir Christopher Walken, magnifique. Et c'était rigolo de voir Lawrence Fishburne et puis Wesley Snipes tout jeune. C'est marrant parce que quand j'ai regardé le film, je ne savais pas la date du tournage, enfin de la sortie. Et je pensais que c'était plus vieux que ça, par rapport à l'imagerie, l'ambiance, la musique, etc. J'ai pas envie d'enfoncer qui que ce soit, quoi que ce soit, ni de convaincre. Non. Désolée.
Radio G, 101.5 FM.
Et oui, mais bon, vous comprendrez que nous ne sommes pas tous d'accord. Je rappelle, si je ne l'ai pas dit, que le film sort en Blu-ray Collector chez Carlotta. Carlotta adore les films à l'esthétique très prononcée. Moi, je vous le conseille. Après, faites-vous votre avis d'après les avis des uns et des autres. On ne sera pas d'accord tout au long de l'année et c'est tant mieux.
Je recommanderais à Carlotta d'essayer d'avoir les droits sur New Jack City, qui parle de la même chose.
Ok, on espère qu'ils ont entendu. Alors Luc, on parle de quoi demain dans Entre les Pages ?
Eh bien, dans Entre les Pages, c'est l'émission de rentrée, bien sûr. C'est l'émission de rentrée de la troisième saison. C'est le 56e épisode de Entre les Pages. Et je reçois la maison Julien Gracq et son directeur, Emmanuel Ruben, pour qu'il nous parle du festival Les Préférences, qui est un très, très beau festival qui va se dérouler dans une dizaine de jours, le week-end d'après celui qui vient, avec un nombre d'invités considérables, des gens extrêmement brillants, Jean-Christophe Bailly, Pierre Coenkes, Fabienne Raffouz, enfin, il y a une brochette d'invités. La maison Julien Gracq fait vraiment un effort dans le champ de la littérature et se pose la question, le thème du festival c'est qui vive, une question essentielle aujourd'hui, politique mais aussi littéraire, et donc ça méritait bien de donner un coup de projecteur à cette manifestation.
Eh bien, quel programme ! Bon, on vous tiendra évidemment au courant de toutes les programmations de Entre les Pages tout au long de l'année. Je vous signale au passage que l'émission Sous les Jupes des Films, que j'anime brillamment, reprend lundi prochain, deux fois par semaine, les lundis et mercredis matin. Au programme de cette première semaine, Un flic aux trousses de Jeff Canew chez Elephant Film avec Kirk Douglas et Seuls les anges ont des ailes de Howard Hawks chez Wildside avec Cary Grant et Rita Hayworth. Une nouvelle émission un mercredi sur deux et qui commence demain à 19h, Caméra Subjective, co-animée par Anne-Lie et Margot. Au sommaire, les ambassadeurs du cinéma de l'Asso Cinéma Parlant, une chronique sur Billy Wilder et moi, le roman de Jonathan Coe qui est sorti en fin de saison dernière, une séquence sonore, chronique rapide sur It. La semaine prochaine, on laisse la place à nos amis imaginaires. À dans 15 jours, les amis.
Eh ben, écoute, à très bientôt, ça va passer vite. Va passer aussi vite que l'heure qui vient de se passer.
Exactement, et puis ce sera aussi brillant, bien entendu.
Exactement. N'oubliez pas de tenter votre chance pour gagner un exemplaire de L'assassinat de Joseph Kessel de Michael Hirsch chez Serge Safran. Rendez-vous sur notre page Facebook ou sur le site de Radio G. On se quitte en musique avec un dernier choix musical de Jean-François, Zen comme Silence. We Lose the Night, extrait de Machine, cinquième album du Quatuor de Stockholm qui, depuis 10 ans, porte le renouveau post-punk en Scandinavie. Bye bye!
Salut! Bye!
Radio G, 101.5 FM. www.radio-g.fr.